Et un principe de droit antique, si vous voulez dire, ça. Ça veut dire que chaque religion correspond à un pays dans le sens traditionnel, c'est-à-dire à une région de la terre. L'expression Elokei Haaretz, ça veut dire que le créateur des univers tout entiers, de la planète tout entière, est le Dieu des habitants de ce pays. Il n'est pas le Dieu des habitants de votre pays. Ce n'est pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est parce que entre lui et eux, il y a des intermédiaires. Mais il est directement le Dieu que des habitants de ce pays. C'est-à-dire, c'est la lettre de la Bible. Ce n'est pas du tout une interprétation rabbinique. C'est le pshat du mitra. Je vais donner un. J'ai fait à Mayanot lundi un enseignement du Rav concernant la différence entre la Galoute et Eret Israël pour la commémoration des fêtes. Et il avait cité cela. La différence entre la Galoute et Eret Israël se voit surtout à Pourim. Parce que toutes les autres fêtes, dans la Galoute, on fait deux jours. En Eret Israël, on fait un jour. Alors que Pourim, en Eret Israël, il y a deux jours. Il y a le Pourim du pays et le Pourim de Jérusalem. Alors que dans la Galoute, on fait un seul jour. Vous voyez donc la remarque. Alors, l'explication qu'il a donnée, c'est qu'il faut faire, ce qui est d'ailleurs l'explication de la Gemara elle-même, il faut faire deux jours de fête dans la Galoute, parce que la capacité de sainteté est plus diluée, il faut deux jours pour équivaloir à un jour de l'Église. Tandis que le jour de fête habituel, on se relie à la signification spirituelle de la Torah. Alors qu'à Pourim, c'est à travers la vie matérielle qu'on fait la fête. Alors pour arriver à faire la fête au niveau matériel en Eretz Israël, il faut deux jours. Bon, en tout cas, pour indiquer en particulier ce fait que, en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de Kedusha de la même nature que la Kedusha d'Eretz Israël. Par conséquent, il y a un lien de Kedusha direct qui passe par l'espace. Ça, c'est une notion qui est très difficile pour un moderne. Pourquoi ? Parce qu'à la rigueur, on retiendra le fait qu'il y a des moments privilégiés dans le temps pour la relation de sainteté. Mais on a perdu complètement l'idée qu'il y a aussi le fait que l'espace concret dans lequel nous vivons est un espace orienté. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je dis là, non, je ne souffre pas. Mais simplement retenez cela comme postulat. Ceux qui sont encore occupés des anciennes traditions, même des traditions d'autres traditions, savent qu'il y a dans n'importe quel pays, il y a des endroits qui n'ont pas la même nature du point de vue de la relation à l'homme que l'endroit d'à côté. Alors, vous avez subitement, on vous dit, ben ici, il y a un endroit sacré, on appelle ça sacré, depuis toujours. Et quelle que soit la religion, ça change de religion, les habitants du pays disent là, il y a quelque chose. Tant qu'on a l'idée d'un espace homogène, on ne peut pas comprendre ça. Mais il faut savoir que l'espace est orienté. Et ce n'est pas seulement une histoire de climat, c'est une histoire que la planète Terre est un organisme qui a sa différenciation propre. Elle a un cœur comme nous avons un cœur, elle a des pieds comme nous avons des pieds. Ça ne se voit pas, ça ne se connaît pas, les anciens savaient. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Et alors, le fait que la relation à Dieu passe de façon privilégiée dans tel endroit de l'espace plutôt que dans tel autre, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus difficile à comprendre que la relation à Dieu passe de façon plus privilégiée tel jour de l'année plutôt que tel autre. Parce que là aussi, on a une conception du temps homogène. Mais le temps n'est pas homogène. Le temps du matin, c'est pas le temps du soir. Le temps de l'été, c'est pas le temps de l'hiver. Et c'est encore une fois, c'est une question de climat. C'est la qualité du temps. Tout ça, le moderne en a perdu la trace. C'est clair juste là. Je vais citer quelque chose qui se relie à cela. Par exemple, dans le problème de la musique traditionnelle. Eh bien, de la même manière, dans le monde de la musique traditionnelle, les musiques ne sont pas homogènes. Je veux dire, on ne chante pas le matin une mélodie du soir. On ne chante pas à Kippour un air de Pourim. On ne chante pas à Pessah un air de Rosh Hashanah. On ne chante pas la nuit comme on chante le jour. L'été comme on chante l'hiver. Ça, le moderne a perdu tout ça. On chante n'importe quoi. Est-ce que c'est clair? alors qu'il y a c'est plus qu'un rythme, un ordre des mélodies par rapport au moment du temps où on est. Ça, un occidental n'a aucune idée de ça. Par exemple, il n'y a pas quelque chose. Je ne sais pas moi, le jour de Rosh Hashanah, dans une communauté traditionnelle, si on chante un mincha sur un air de Moussard, il y a un scandale dans la synagogue. Et personne ne sait plus pourquoi. C'est pas l'air. Mais pourquoi c'est pas l'air? Eh bien, parce que c'est pas l'air. Bien. Alors, je reviens à notre problème. Et nous sommes donc simplement au début, les Olam, dans tous les cas. Il y a deux radams, Beret Israël, à Filou Berir, Shaouba, Ode, Kochavim, il y a deux Bechout Laaret. Vous voyez, il y a ici une sorte de jeu de mots. C'est plus qu'un jeu de mots. Chout Laaret, ça se dit Chul, mais c'est les mêmes lettres que Chol. Alors vous avez Eret HaKodesh, et en dehors, c'est Chol. Filou Berir, Shaouba, Israël. Et jusque-là, ce dont il faut surtout se rappeler, c'est la différence entre Yagour et Yadour. Ça va? Bon, je n'ai pas terminé l'analyse, mais vous la terminez vous-même. Tous ceux qui, vivant dans la Gola, disent sérieusement Libye Vemizrah, mais sérieusement, Vani Vesok Maharav, comme disait Judas Lévi, ceux-là ne sont pas frappés par cette Braïta. C'est clair? Alors, voilà l'explication de Braïta. Chez Koladar de Eret Israël, parce que tout celui qui réside en Eret Israël, Domé Kemi Sheyeshlo Eloka, ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Je reprends les mots. Domé Kemi, et pas Lémi. Domé, il apparaît comme, il semble, Kemi, comme quelqu'un qui a un Dieu. On s'en est bien, on voit la différence entre Domé Lémi et Domé Kemi. Domé donne comme apparence, Domé Kemi, comme celui qui a un Dieu. Apparaît comme celui qui a un Dieu. Les Koladar Bechutsalaret, et tout celui qui habite en dehors du pays, Domé Kemi Shenlo Eloka, ressemble à quelqu'un qui n'a pas un Dieu. Et on va nous donner un verset pour ça. Mais la difficulté, un peu lentement, la difficulté, c'est la formulation de la formule. Okay. Je vais vous donner un chidouche là-dessus, pour vous aider à comprendre un peu plus au-delà du pshat. C'est ceci. De qui on peut dire qu'il a un Dieu? De qui Dieu a dit qu'il s'appelle comme ça? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. De cela, on peut dire qu'il a un Dieu. Ça, c'est sûr. C'est pas que toutes les créatures sont les créatures du même Dieu. Okay. C'est pas que n'importe quelle créature peut croire en Dieu. Mais de qui on peut dire qu'il a un Dieu? C'est quand ça s'est dévoilé que Dieu se nomme de son nom. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est clair? Alors prenons cela comme référence. C'est-à-dire, celui qui habite dans l'Église d'Israël est dans le cas des patriarches, de quel Dieu a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Ça laisse de côté le problème que dans tous les cas, Dieu est le souverain de toutes les créatures, et que dans tous les cas, celui qui croit en lui, croit en lui. C'est pas parce que je crois en Dieu que j'ai un Dieu. Quand je crois en Dieu, je crois en Dieu. Quand est-ce que je peux dire que j'ai un Dieu? Quand Dieu a dit, je suis ton Dieu. Est-ce que c'est clair? Voilà la différence. C'est cette ma'ala-là. C'est-à-dire ce niveau-là. Chez Néhémie, ainsi qu'il est dit, Latet lachem et eret knaam, liyot lachem l'elokim. Et c'est dans un verset de Vaïkra. Si vous avez des livres de Vaïkra, là vous pouvez prendre le verset. Okay. Prenez le chapitre. C'est le chapitre 25. Hein. Qu'est-ce que vous avez là? Capé. Chapitre 25. Dans Vaïkra, et je vous donnais la référence. Oui, si vous voulez peut-être le distribuer à ceux qui en veulent, ne soyez pas égoïste. C'est pas vous que je parle. Chapitre 26, Ken ? Non, 25. 25. Capé. Dans le verset, c'est le verset 38. Voilà, alors on va lire le verset ensemble. Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem votre Dieu. Asher otseti etrem eretz Yisrael, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, latet lachem et eretz Knaan, pour vous donner le pays de Knaan, liyot lachem Elokim, pour être votre Dieu. Donc le raisonnement est très clair sur ce verset. Et comment dire, comment va dire la Braïta? Sheneemar, latet lachem et eretz Knaan, liyot lachem Elokim. Bon, le raisonnement, je vais vous restituer. Ça veut dire, je vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu sur le pays de Canaan. C'est clair? Oui, l'ordre du verset. Qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si vous n'êtes pas sur le pays de Canaan, je ne suis pas votre Dieu. Que vous croyez en moi, que d'autre part, je suis providence de toutes les créatures, c'est autre chose. Mais être votre Dieu dans le sens qu'on a vu tout à l'heure, c'est si vous êtes sur le pays de Canaan. Vous voyez jusqu'où ça va? Bon. Je suis votre Dieu, que vous vouliez ou pas. Mais pour être pour vous Dieu et que ça vous serve, ça c'est un Eretz Knaan. Ça veut dire qu'en dehors du pays, c'est comme si je ne m'occupe pas de vous. Comme il y a une clause que c'est moi qui vous envoie en exil, quand je vous envoie en exil, je vous protège là-bas. Mais vous vous rappelez pourquoi j'ai commencé par l'introduction tout à l'heure, c'est clair? C'est bien compris. Alors, celui qui, même dans le temps légitime de l'exil, se considère en dur, dira, à l'étranger, celui-là est déjà sorti d'Israël. Même dans le temps légitime de l'exil. Alors, à plus forte raison, dans le temps où l'exil n'est plus légitime. Ça y est, c'est clair? Bon. Et vous voyez, il y a une sorte de patience de l'histoire qui fait que les lois ne s'appliquent pas automatiquement. Dans tous les cas, on a un sursis. Mais ce que je veux dire, que si un Sanhédrin devait promulguer cette Braïta comme force de loi, ça voudrait dire excommunier une bonne partie en tout cas du judaïsme de l'étranger. Est-ce que c'est clair? Ceux qui sont dans ce cas-là, pas dans le cas de la Gour, pas les chassidim de Gour. Ken? Oui, j'ai eu de ce côté la question analogue, peut-être vous n'avez pas entendu. La tête lachem, c'est pour vous donner la terre, hein? Et l'iot lachem, pour moi et pour vous, Dieu. L'iot lachem, de telle sorte que je sois votre Dieu. Alors en tout cas, je reviens sur le raisonnement. Non. Pourquoi je vous donne ce pays de Canaan pour être votre Dieu? Comme si Dieu leur disait, je suis le Dieu de ce pays-là, or vous êtes mon peuple. Par conséquent, si vous n'êtes pas sur ce pays-là, je ne suis pas votre Dieu. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Parce qu'à l'époque, il était occupé par Canaan, par un peuple qui s'appelait Canaan. Ce n'est que plus tard qu'on va l'appeler Eretz Israël. Hein? Et pourquoi ce pays? Très bien. C'est une question importante et qu'on ne va pas esquiver. Et pourquoi ce peuple? C'est la même question, finalement. Et l'idée que le peuple d'Israël est à part des autres peuples, finalement, on s'est habitué. Ça reste mystérieux, on ne comprend pas en quoi, mais on a pris acte. Et l'idée que cette terre est à part des autres terres, ça fait plus problème, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'on s'est déshabitué. Mais il suffit de se rendre compte que l'humanité entière la réclame pour se rendre compte qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que savent les goïmes qui veulent cette terre? Bon, je vais donner une petite indication qu'a donné Judavé. Qu'a donné Judavé. C'est vraiment une indication partielle. Ce qui caractérise Israël, au sein de l'humanité, c'est qu'il est capable de la prophétie, biblique et la prophétie hébraïque. Il y a d'autres types de prophéties, mais je parle de celle-là, la prophétie hébraïque, qui finalement a traversé l'histoire de l'humanité avec un impact colossal dont peut-être les juifs seuls ne sont pas à même d'apprécier l'envergure. Je vais vous donner deux coups de projecteur, un en Occident et un en Orient. En Occident, un monde aussi colossal que la chrétienté pendant 2000 ans, qui se considère comme les héritiers de la parole des prophètes hébreux, à leur manière. En Orient, l'islam, et où ça va beaucoup plus loin, non seulement des prophètes hébreux, mais des rois d'Israël et des patriarches d'Israël, c'est à eux. Alors, le juif coincé là-dedans, lui ne se rend pas tellement compte qu'est-ce que les goïms pensent des prophètes hébreux. Vous suivez ? Or, Judas l'a bien dit, et cette capacité du peuple hébreu de prophétiser lui vient de la terre d'Israël. En dehors de la terre d'Israël, il n'y a pas de prophétie. Alors, il explique avec une image. Pour le moment, je reste avec l'image. Et lui-même s'objecte à lui-même, et les prophètes qui ont prophétisé en dehors d'Israël, et il explique chaque cas. Mais il donne une image. Il dit, je crois que soit c'est l'image qu'il donne, soit c'est moi qui interprète à travers ma culture française. Mais enfin, c'est cette image-là. Et il dit, vous avez des vins différents suivant le coteau différent du terroir différent. Il y a tel coteau qui distille tel vin. Eh bien, la terre d'Israël distille les Hébreux, c'est-à-dire la prophétie. Bon, c'est-à-dire, on doit prendre acte qu'il y a un fait. Cette terre est à part. Ce n'est que lorsqu'on s'est coupé du temps hébraïque qu'on ne le voit plus. Mais les goïms le voient. Vous croyez, je ne sais pas moi, un observateur de Sirius se demanderait, mais qu'est-ce qui prend l'humanité entière de disputer à ce petit peuple de rescapés, cette petite terre rescapée. C'est une histoire uluberlue, je ne sais pas. L'humanité entière qui veut qu'à ça. C'est tellement invraisemblable qu'on ne voit pas à quel point c'est invraisemblable. Vous suivez ? Bon. Et ça veut dire qu'il y a donc un état de fait, que c'est pas pour rien qu'il en est ainsi. Et je crois qu'effectivement, concernant l'identité hébraïque, les juifs, peut-être, ont réagi par un surcroît de modestie. C'est tellement vertigineux ce que les Hébreux nous ont dit. Nous sommes les hommes à qui Dieu a parlé pour dire « c'est pour vous que j'ai créé le monde ». Ou bien ils ont menti, ou bien c'est vrai. Dans les deux cas, c'est vertigineux. Parce que pour inventer un mensonge pareil, il faut vraiment être ceux à qui Dieu a dit ça. C'est pas possible. Mais, d'autant plus qu'on a mené le monde en bateau pendant 6000 ans avec. Bon, c'est donc pas un mensonge. Et, évidemment. Laisse-moi finir. Non. Et, donc vous avez cette première indication. C'est-à-dire, un juif se rendant compte, qu'est-ce que ça peut vouloir dire un hébreu prenant les choses au sérieux, à Bible ouverte, si j'ose dire, ne peut pas ne pas avoir le vertige. Alors, réaction de modestie, quoi ? Moi, c'est ça, je ne peux pas voir. Mais l'égoïme voit. Qu'est-ce que c'est pas démocratique ?
Non, c'est pas démocratique de penser comme ça. Non, beaucoup de Juifs, la Galoute, ils vont dire, mais pas démocrate de penser que le peuple élu.
Mais j'ai pas dit le peuple élu, c'est plus grave que ça. J'ai dit le peuple.
L'élitisme, c'est pas que la démocratie.
L'élitisme, mais j'ai dit le peuple désigné par l'égoïsme comme étant les héritiers de ces géants de l'histoire qui s'appellent les Hébreux. La preuve, regardez ce qui se passe dans une église, regardez ce qui se passe dans une mosquée, dans n'importe quelle chapelle humaniste. Où en fin de compte, les intuitions de base se rattachent à la prophétie hébraïque. Je pense que c'est clair. Et alors, le fait qu'on ne perçoive plus, c'est-à-dire, ça j'arrive à comprendre, qu'un juif résiste à l'idée du peuple élu, si tu veux. Mais par réaction devant le vertige. Parce que s'il faut prendre la Bible au sérieux, ça donne le vertige. C'est clair ce que je dis là ? Bon. Alors, par exemple, je vous raconterai ce midrash que j'ai dû citer une fois, à propos de Shavuot. Au moment où Dieu va donner la Torah à Israël, il y a un vide dans l'univers entier. Et alors, le midrash dans le Gemara de Shabbat, dans le page 88, Kachar, qui dit, alors le prince de la mer demande à Dieu, où est la Torah ? On sent une absence partout. Et alors, Dieu dit au prince de la mer, va demander au prince de l'abîme. Le prince de l'abîme demande, et où est la Torah ? Alors Dieu lui dit, il va demander au prince de la nuit. Et finalement, on arrive, ils disent tous, mais la Torah, elle n'est pas chez moi. La Torah a disparu de l'univers. On va la donner à Israël. Alors finalement, Dieu dit, allez chez Moïse, fils de Ramam, Moshe ben Amram. Demandez-lui la Torah. C'est un midrash qui est exactement sur ce problème. Alors, ils vont chez Moïse, fils d'Abraham, et disent Moïse, la Torah. Et Moïse, une réaction simple, quoi? De quoi vous parlez? La Torah, moi? Alors Dieu là-haut qui lui dit, puisque tu as été modeste, on l'appellera la Torah de Moïse. Mais c'est exactement le problème. Vous avez compris le problème. Imaginez les puissances de l'univers disant à Moïse, voilà la Torah. Et Moïse réagissant, quoi? Moi la Torah? Ça va pas? Ça c'est la réaction du juif, affolé par l'idée qu'il a la Torah. Je pense que c'est sûr. En tout cas, dans la deuxième dimension, par rapport à la terre, ça je crois que c'est finalement le résultat de la longueur de l'exil. C'est-à-dire qu'on s'est déshébraïsé au point qu'on n'a plus eu cette conscience qu'avaient les premières générations de l'exil, que cette terre qui s'appelle Eretz Hemda est particulière. Et c'est revenu au niveau de l'inconscient. Par exemple, comme on dit en français, qu'est-ce qui a fait courir les premiers sionistes non religieux? Avec une espèce de fanatisme de cette terre-là et pas une autre. Qu'est-ce qui a travaillé là-dedans? Ou bien, qu'est-ce qui travaille dans le fait qu'un juif, et ça arrive tous les jours, pour la première fois qu'il arrive en Eretz Israël, il reçoit un choc physique. Et vous l'avez certainement éprouvé par vous-même. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà ce que je voulais dire. Ça reste mystérieux, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, quand les textes nous disent c'est le cœur du monde, il faudrait voir à voir. Quelle? Les hiottes avec hé. Quelle?
Il est introduit par la sève.
Par? Attendez. Attendez, je reprends le verset. Asher, au Tseti Etre, Meret Mitzrayim, la tête, quelle? Pas la tête, la tête. La tête, la chem, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner à vous le pays de Canaan. Et pourquoi? L'Iyos, la chem, l'Elohim, pour être pour vous Dieu. Alors quelle est la question?
La question c'est que la tête, la chem, introduit l'Iyos. Donc on ne peut pas arrêter la phrase à la
question du don de la terre. Attends, j'entends deux choses différentes. Ça veut dire que le don de la terre n'est qu'en vue. Oui. Premièrement, et deuxièmement, ça veut dire que si tu es sur la terre et sur le raisonnement de la Gemara, Dieu est ton Dieu. C'est pas toi qui dis à quelle clause. C'est lui qui a décidé. Parce que ce que j'entends d'autre part, je ne sais pas ce qu'il a dit explicitement, c'est que, et cette terre vous appartient que si vous pratiquez la Torah. Ben c'est pas ça, c'est pas ce que dit le verset. Et il dit, ben, je vous donne cette terre pour être votre Dieu. La clause, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Vous avez compris le problème? C'est très difficile pour l'idéologie de la galoute. Très bien. Enfin, ce que j'appellerais l'idéologie alibi de la galoute. Pas plus tard que ce matin, dans notre cours, on m'a posé cette question. Quelqu'un qui venait d'arriver du Yeshiva de France, d'ailleurs, et j'ai donné la même réponse avec une référence. On étudiait sur ce principe. Qu'est-ce que ça veut dire faire tshuva pour le peuple d'Israël? Ça veut dire revenir chez lui. Bon. Et alors, la question de l'élève était que, mais non, c'est pas ça. Il faut d'abord revenir à la Torah à Paris ou ailleurs, et après, tu peux venir. Mais l'ordre du verset, c'est l'inverse. Déjà, ce verset-là. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que peu importe comment il est arrivé dans le pays, parce que quelqu'un lui a dit que l'exfilule, c'est israélien. Je sais pas moi. Ok? Alors il a mis d'abord les filines, après il est arrivé ici. Mais c'est ici que sa tshuva va commencer. Est-ce que c'est clair le... Bon, en tout cas, je vous signale comme référence principale sur ce point le chapitre 30 du Deutéronome. Dvarim Lamen, Atem Nitzavim, tout entier. Okay? Il dit ceci, je vous ai mis loin, revenez et vous serez chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire que loin vous allez être chez moi et que vous allez revenir? Alors ne revenez pas si vous êtes chez moi loin. Je pense que c'est clair. Ma? Oui. Mais le cœur et la périphérie, dans ce problème, c'est Israël et l'humanité. Alors quand le cœur est à la périphérie, l'humanité a mal au cœur. Ça veut dire le cœur. Le cœur ne fonctionne pas. Et elle en a beaucoup de rancœur. Alors, Ken, oui.
J'en viens encore en arrière.
Pas trop, hein.
Non, pas trop. Au sujet de la bourre et la bourre.
Oui.
La bourre, bah, c'est clair. Les bateknesses, vous disiez que c'était provisoire aussi.
Oui.
Il y avait une possibilité.
Les vrais bateknesses, pas celles du consistoire. C'est tellement simple. Quand par exemple la communauté de Philadelphie, je sais pas quoi, veut se construire un temple en marbre, Ken, alors de deux choses l'une, ou bien ils savent qu'ils vont faire un grand cadeau aux protestants dans pas longtemps, un temple en marbre, ou bien c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Alors ça c'est la dour, c'est pas la goût.
Oui. Ah, alors les vrais bateknesses.
Yal. Mais pas tout. Et alors?
Est-ce que ça veut dire par là que les Israéliens, un Israélien qui est en Israël, qui est hébreu, en Israël, donc il ne peut pas, il n'aurait même pas, il y aurait même pas la possibilité d'être en Shrikhout, par exemple.
Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
Oui, mais et non, il n'y a plus de Bataknesset.
On va finir de parler. J'ai dit tout à l'heure que la Braïta commence par Léa Olam, en règle générale. Ça veut dire des cas particuliers où on demande l'avis d'un spécialiste.
Oui, mais
quoi? S'il n'y a plus de Bataknesset là-bas, et un Israélien, ils ont Stichou.
Oui, mais...
Écoutez, ne posez pas des questions théoriques à l'envers. Et un Israélien hébreu, comme tu dis, là où il va, il se fait son petit Bataknesset portatif. Mais c'est la gour, c'est pas la dour. Pas vous embêter. Et je peux vous raconter, tant que le Rav était vivant, chaque fois que je devais voyager, et Dieu sait que c'était souvent, j'allais lui demander la permission, et il me demandait pourquoi. Des fois il disait non, et je partais pas. En général il disait oui, mais des fois il disait non, et je partais pas. Et lui seul savait qu'il fallait, C'est clair. Bon. Alors, nous sommes arrivés donc à la fin de ce raisonnement, et j'ai oublié de vous dire, et chaque fois il me disait « Laïlato ». Bonne nuit. À la fin de ce raisonnement, « Latef lachem et eret knaam, liyot lachem elokim ». Ça va jusque-là? Objection de la Gemara. « Vekol sheno dar baaret elno eloka ». Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Que tout celui qui n'a pas sa résidence dans le pays n'a pas de Dieu, et les goïms, ils ont leur Dieu, d'après le même principe. Okay? Or, ton raisonnement impliqué qu'en général, n'importe qui n'est pas en Eretz Israël est comme celui qui n'a pas de Dieu. Réponds. El alomar lecha. C'est pour te dire, koladar bechut laaret, nous allons voir que c'est plus grave encore, koladar bechut laaret, tout celui qui habite en dehors du pays, keilu oved avodat kochavim. C'est comme s'il était idolâtre. Ça veut dire que c'est comme s'il était relié à un autre Dieu. Le drapeau. Okay. C'est clair? Alors, pour vous rassurer, il est évident que pendant tout le temps de l'exil, où c'était le temps légitime de l'exil, et où il ne s'agissait pas de gens qui se considéraient chez eux là-bas, la Braïta n'avait pas force de loi. Elle tend à prendre force de loi, catastrophiquement, comme on va le voir avec le Hefker de tout à l'heure, c'est dans cette Gemara-là. Okay. Quand c'est fini le temps légitime de l'exil. Ça va jusque-là? Bon, alors on va s'arrêter là pour ce soir. Et alors on se retrouve mercredi prochain. On embraye là-dessus. Ne perdez pas de cours, parce que sinon on est perdu. Le passage de la Gemara que nous sommes en train d'étudier, d'abord je vous rappelle le sujet du cours, c'est les différentes théories d'explication de la Shoah. Et nous avons eu trois cours d'introduction, je pense, sur lesquels je ne reviens pas. Sauf de temps en temps, si vous rencontrez une des idées que nous avons étudiées dans ces cours d'introduction à travers une référence, si vous voulez qu'on le précise plus, vous me le rappelez à ce moment-là, on reviendra là-dessus. Et alors, on avait finalement décidé de prendre la septième explication avant les six premières. Les six premières, c'est celles qu'on doit critiquer. Vous vous rappelez de cela? Je vous les avais énumérées, vous avez le plan, je suppose. Et la septième, c'est-à-dire celle qu'enseignent les maîtres de la tradition et pas fût-ce des théologiens, même juifs, mais qui ont une opinion personnelle, une analyse personnelle sur le problème. C'est bien cela. Nous avons commencé par une référence qui se trouve dans la Gemara de Ketuvot, à partir d'une étude. Je vous signale, je vous ai apporté le livre pour ceux qui peuvent se le procurer. Une étude du Rav Akiva dont je vous avais parlé dans les premiers cours. Vous vous rappelez, c'est le Rav Mordechai Atiya, il est mort il y a quelques années. Son fils est aussi rabbin et son petit-fils a repris la capacité d'enseignement du grand-père. Le petit-fils a à peine une vingtaine d'années d'ailleurs. C'était une famille de kabbalistes d'origine de Syrie et le grand-père, le Rav Mordechai Atiya de Zichrono Livracha, dont j'ai été l'élève à Jérusalem, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de maîtres à Jérusalem, a été pendant très longtemps le chef de la communauté de Mexico, avant de revenir à Jérusalem. Et c'est lui qui, le premier, a pris l'initiative et a eu le courage, disons, d'aborder ce problème, déjà il y a une vingtaine d'années, d'aborder ce problème du point de vue de la tradition elle-même, pour, si j'ose dire, rompre ce silence des autorités autorisées, compétentes concernant ce problème-là. Je ne reviens pas sur l'analyse d'introduction. Alors, le livre, un petit livre d'ailleurs, qu'il a consacré à ce texte que nous sommes en train d'étudier, et par conséquent, la majorité des explications que je voudrais vous donner sur cette référence que nous sommes en train d'étudier viennent de ce livre ou de l'enseignement oral que j'ai reçu de lui. Je tenais à vous le citer. Et il s'appelle Sod HaShavua, c'est-à-dire le secret du serment. Sod HaShavua, je vais tout de suite entrer dans le sujet. Alors je crois que vous pouvez vous le procurer à l'adresse de sa famille, mais elle n'est même pas dans ce livre. Et je vois si... Vous savez ce qu'on va faire? S'il y en a plusieurs qui sont intéressés, vous vous inscrirez au bureau et puis on les commandera. Tiens, d'ailleurs, quand ça avait paru, j'ai fait un très long séminaire à Paris. Ah, tu étais? À l'école rabbinique? C'est pas vrai. De ce temps-là?
Oui, c'est ma
Nahol? Oui. Et que? Le Ravachla? Nahol? Ça me rappelle les souvenirs. Et à ce moment-là, vous avez gardé les exemplaires de ce temps-là? Non. Ils sont très rares. Je veux dire pourquoi. Il y en avait très peu quand c'est sorti. Et alors j'ai fait faire une photocopie du livre à Paris, et vous aviez des livres photocopiés. Tu te rappelles ça? Bon, c'était le déluge, avant le déluge. Et alors, ce livre s'appelle Sod HaShavua. Et il avait écrit parallèlement un autre opuscule sur la Aliyah, sur la nécessité de la Aliyah, et la discussion avec la controverse, disons, avec les juifs orthodoxes qui sont anti-sionistes, et qui s'appelle Lech Lecha. Vous comprenez le sens du titre, Lech Lecha, c'est la première chose que Dieu a dit à Abraham, c'est Lech Lecha. Dis ce truc pour qui? C'est par là que vous êtes passé. Non, Marseille. Rappelez-moi où c'est à Marseille, j'ai oublié. Je savais. Non, l'agent juif.
Convertuché.
Numéro 10, 10.
17.
Bien. Alors, ça c'est. En général, ils sont édités ensemble d'ailleurs. Bon. Alors, je vais reprendre très rapidement la lecture de la Braïta que nous avons commencé, jusqu'au moment où on est arrivé. Nous allons avancer le plus rapidement possible déjà ce soir, mais c'est pas ce soir qu'on va terminer ce texte. Merci. Et j'espère qu'on arrivera au bout, au moins en tout cas, de cette septième explication à la fin juin. Les autres, on décidera ensemble si on étudie en été, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, si on reprend l'année prochaine. Bien. Alors, d'abord, l'introduction que je vous rappelle. Pourquoi cette référence en particulier? Parce que l'analyse de la manière dont les événements se sont passés pendant la Shoah, et je rappelle une dernière fois pour ne plus le rappeler, qu'en français on dit l'Holocauste, ça je vais le critiquer quand on verra la troisième ou la quatrième théorie qui traduit l'événement par le terme d'Holocauste. C'est une catégorie d'origine de projection chrétienne sur l'événement, que c'est pas comme ça qu'on peut traduire la Shoah, c'est bien clair. Alors non, je dirais définitivement le mot de Shoah. C'est une situation de Hefker, Qu'est-ce que ça veut dire, Hefker? Ça veut dire qu'il n'y a plus de règles. On peut faire n'importe quoi. Comme si toutes les consignes, et en particulier une des consignes les plus importantes concernant l'histoire juive dans l'exil, la promesse de protection dans l'exil, quelle que soit la difficulté de l'exil, de telle sorte, les risques de l'exil, de telle sorte que ça ne dépasse pas un seuil qui risquerait de mener à la destruction, que même cette promesse semble être suspendue, et finalement, il y a une situation totale de Hefker. Hefker, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire en français, chaque fois j'ai la même difficulté. Qui a un mot français qui correspond à Hefker? Ma? Oui. Attendez, ce mot est passé en yiddish, Hefker. Alors, qui l'entend en yiddish? Peut-être que ce sera plus facile de comprendre, de le traduire en français. Je vous raconte une petite histoire qui me revient. J'avais cité une fois un livre qui s'appelle Réhobéni, prince des Juifs. Ça vous dit quelque chose?
Je n'en avais pas
parlé. Oui, je ne l'avais pas trouvé. C'est dommage, je pourrais le chercher. Et alors, il raconte... Ma? Ah, le nom du livre, j'ai oublié l'auteur. Réhobéni, prince des Juifs. Il y a un passage là où il décrit la figure d'un juif noble, très puritain, très strict, très exigeant. Mais pour indiquer que dans la tradition juive, même ce profil humain d'un juste, d'une exigence totale et par conséquent qui risquerait de devenir à forme d'exigence, devenir, je ne sais pas comment dire, mais vous comprenez l'idée, hein? Intolérant, plus qu'intolérant, méchant, même à la limite. Que quand même, lorsque c'est authentique, lorsqu'il y a une attitude de noblesse, il y a des vertus cachées qui se dévoilent dans certaines circonstances, c'est décrit la scène suivante. C'est que cet homme était riche, comme tous les puritains, comme ça, et la bourgeoisie. Et alors, en ce temps-là, on entassait le bois du chauffage en bas de la maison, soit derrière la maison, soit devant la maison, en Europe centrale. Et alors qu'un jour il entend du bruit, un soir il entend du bruit, il voit quelqu'un est en train de voler du bois. Il ouvre la fenêtre, le voleur s'aperçoit qu'il a été pris, et il s'enfuit. Il a peur d'être pris sur le fait. Et alors, ce juif pieux, le propriétaire de la maison, se met à crier « Hefker, Hefker !» Ça veut dire « Tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de vol, ça appartient à tout le monde, tu peux prendre, il n'y a pas de règles. » Vous avez compris le sens du mot « Hefker ». Il n'y a plus de règles. C'est vrai. Donc, là, c'était « Hefker » en yiddish, d'ailleurs, mais ça a le même sens en hébreu. Et alors, le Rabatia met en évidence que nous avons un enseignement de la Gemara. Il dit qu'à une certaine condition, le peuple d'Israël deviendra Hefker, risque de devenir Hefker, deviendra Hefker. Et donc, vous voyez la mise en rapport de cette référence, à quelles conditions il risque d'y avoir cette situation de Hefker, et d'autre part, notre problème, qu'il est évident que quelque analyse que ce soit, et surtout lorsqu'on a encore en mémoire les images de tout cela, que les Allemands se sont conduits vis-à-vis des Juifs, et dans une complaisance quasi-universelle, sauf des chassidés au Mota Olam, des juges des nations, mais qui étaient très souvent impuissants, sont conduits avec le peuple juif comme si le peuple juif était Hefker. Aucune règle. C'est clair. C'est une des dimensions. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire, Hefker, ça veut dire, puisque c'est des juifs, c'est trop légal encore. C'est trop légal. Hefker, ça veut dire que ça n'appartient à personne. C'est-à-dire que personne n'est responsable, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Oui, mais vous voyez, ces mots restent faibles. Gardez l'idée. C'est-à-dire que, rappelez-vous, les événements, très souvent, des goyims qui, dans des temps normaux, étaient normaux, en ce temps-là, on disait « Ah, mais c'est des juifs, ah, c'est des juifs. » Vous voyez à peu près cela. Okay. Ça veut dire des gens qui n'auraient jamais laissé faire des choses de ce genre, inouïes. Okay. Mais il suffisait qu'on disait, mais c'est des juifs. Par exemple, la gendarmerie française, parce que c'est, après tout, c'est des gendarmes, c'est pas des gangsters. Okay. Et pourtant, quand il y avait des protestations, ils répondaient, mais c'est des juifs. Ah, c'est des juifs. Vous avez compris le mot de esquer à ce niveau-là. Hein? Pourquoi? Ah. Non, vous devez être dans un... Vous devez être dans l'autre quand... C'est un autre stalag. Oui, de ce qu'à faire? Non, mais...
Non,
ah, c'est qu'une larme dans l'océan. Oui. Orpheus? Non. Donc c'est signalé. C'est vous qui m'avez prêté un livre en français, je n'ai pas encore fini. Top. Bien, alors c'est dans la clé, s'il est la charnière de ce texte, c'est à propos d'un verset du Cantique des Cantiques auquel on aura déjà l'occasion d'arriver ce soir, qu'à certaines conditions, Ani matir betzachem, vous rappelez cet enseignement de Rabbi Eleazar, Kitzvaot vekeailot asade, et Rashi explique Ani matir betzachem, lachon efker. Bon, je n'ai pas traduit parce qu'on va retrouver ce texte tout à l'heure. Alors, de quoi on était parti? D'une braïta qui commence comme cela. Vous l'avez au début du texte, l'Erolam, Tanu Rabanan. Je relis la braïta très rapidement pour enchaîner. Quel tu es? Ça va? L'Erolam. Yadur Adam Veret Israël, dans tous les cas, on doit habiter Yadur dans le sens de l'habitation fixe. C'est clair? Vous rappelez ce qu'on suit? Vous rappelez? Alors laissez-moi parler. Yadur. C'est la deuxième ligne en haut à partir du milieu de la ligne. Ken, Tanu Rabanan, Tavresh. Vous vous rappelez ce qui était au cours en hébreu lundi soir, peut-être, qu'on avait vu que quand Jacob descend en Égypte, le verset dit Vayagor Sham, et pas Vayadur Sham. Ken, différence entre la Gour et la Dour. Vous vous rappelez de... Dans tous les cas, Beholam, Yadur Adam, Beret Israël, Afilou Beir, Sherouba, Ovde, Kochavim. Dans tous les cas, on doit habiter Eretz Israël, même dans une ville qui est peuplée en majorité d'idolâtres. Et il ne doit pas habiter, dans le sens toujours de l'habitation fixe, en dehors du pays. Khul, c'est l'abréviation de Khutzlaret. Il y a un drash qui explique que Khul, ça doit se lire Khol, profane, parce que Eretz Kodesh, en dehors, c'est Khol. Va filou beir chez Ouba Israël, et même dans une ville peuplée en majorité d'Israël. Vous voyez que ça correspond à une situation contemporaine, bien sûr, mais surtout à la situation des années 30, où la perplexité, la problématique, le mouvement sioniste était apparu, quoi faire, préférer aller vivre dans ce pays où il n'y avait rien, les juifs, la chemin à Tsaïr, et puis où alors habiter Strasbourg, où il n'y a que des juifs pieux. Je ne sais pas, on peut dire d'autres termes.